Vous écoutez
RMC.
RMC.
Je sais pas où on va repartir, mais on nage dans le bonheur.
Comme on dit, les malheurs des autres font le bonheur des autres. Et...
Mais après, comme on dit, le bonheur des uns fait le malheur des autres.
À tout malheur, machin est bon, un truc comme ça.
À tout malheur, bonheur est bon.
Je suis sûr que c'est pas ça.
Jusqu'à minuit, l'after foot.
Gilbert Bribois.
Il est 23h03, voyez la chercheur Florent Gautreau et Daniel Riello sont là. Bodo Glimt s'est qualifié pour la phase de poule de Ligue des Champions, je vous précise.
La phase de poule. Pour la Ligue des Champions.
Pour la Ligue des Champions.
Phase de Ligue.
Bodo Glimt. Phase de Ligue. Bodo Glimt, ils sont toujours là. C'est...
Voilà, mais là ils étaient en barrage.
Quart de finaliste. Hein.
On aura un club azéri.
Le
Sporting.
Ils se font les barrages quand même.
Exemple de, pris en exemple par... Jean-Louis Lec.
Ah oui, Jean-Louis Lec.
Hier.
Exactement.
Absolument. Il a dit, il n'y a pas de raison, si eux, ils l'ont fait, on peut le faire.
Exactement.
Ouais. On aime ce genre de propos.
Bon, au niveau climat, il se rapproche.
Ouais, merde. Il y a une marche.
Je viens de me brouiller avec les Lensois.
Il y a une marche, quand même.
L'OM, parce que les rumeurs Pacheco qui partiraient sont de plus en plus intenses.
Bah, c'est pas une rumeur, c'est une information. C'est 50-50 ce soir.
Bon.
50-50 ce soir avec un joueur qui semble indécis. Il y a des versions qui disent qu'il a envie de rester et d'autres qui semblent plus indécis.
Je crois qu'il n'y aura pas le choix.
Mais il aime beaucoup l'attachement qu'il a avec les supporters,
c'est que ce soir, les Américains.
Tu viens de faire un truc extraordinaire quand même. Moi, je te parle de rumeurs, toi, tu me dis c'est une info 50-50. Ça, c'est l'info 50-50.
Bah non, attends, là, je crois que t'as pas compris. Une rumeur, ça veut dire qu'on ne sait pas. 50-50, ça veut dire qu'on sait qu'aujourd'hui, j'ai ce que je vais.
Oui, mais c'est 50-50.
Non, alors non. L'information, c'est que les Américains veulent absolument le vendre et qu'il y a conflit à l'intérieur du club.
La direction sportive ne veut pas.
Parce que la direction sportive ne veut pas. Donc, ça, c'est pas une information, ça.
Ah, là, c'est déjà plus détaillé.
Tu jettes la pièce. La rumeur, c'est il va peut-être partir, il va peut-être pas ceci, cela. Il faut expliquer pourquoi.
Dans les 50-50, c'est quand même un 50 qui a plus de poids que l'autre 50, quand même.
Je crois pas.
Le 50 du proprio, tu veux dire.
Ah oui, non, c'est-à-dire qu'il y a un moment. Celui qui a
Je pense que quand je dis il a pas le choix, t'as toujours le choix de dire je veux pas. Mais quand t'as même tes agents. Si l'offre est ferme, concrète, belle offre, et que même tes agents te disent oui, ok, t'es super attaché, mais il n'y a pas le choix.
Le problème de Pacheco, c'est qu'aujourd'hui, c'est le joueur le plus en forme de l'Olympique de Marseille. Que déjà, t'as pas remplacé Greenwood parce que tu peux pas enregistrer un mec. Que là, si tu perds Pacheco, est-ce que tu pourras enregistrer un mec?
C'est une cata parce qu'il faut avoir le temps, même si normalement tu as toujours des cahiers avec des noms et des shortlists.
Ouais, mais le problème, c'est qu'apparemment, tu dois au moins en sortir plus d'un pour enregistrer un joueur. Donc, ça serait une catastrophe de voir Pacheco partir de l'Olympique de Marseille. Et moi, je pense qu'il pourra aussi avoir une cassure avec les supporters parce que si tu ne remplaces pas Pacheco ni Greenwood numériquement, c'est dramatique.
Bah, si tu n'as pas l'oseille, tu peux t'acheter autant que tu veux.
Bien évidemment, mais en fait, jouer avec Harit à droite ou avec Abdallah ou Mahdi.
Tu as monté Wea sur le terrain.
Oui, d'accord, mais pour
une équipe, tu joueras à la 7ème place en fait.
Voilà, la saison elle est complètement morte à ce moment-là.
Mais l'histoire elle est quand même connue de tous, c'est-à-dire que même les supporters que j'écoutais à la sortie du stade, ils savent que Pacheco peut partir. Ils le savent aujourd'hui.
Oui,
donc ils vont pas refaire une crise maintenant.
Ils savent pire. Genesio l'a dit lui-même, plus 20h10 vendredi soir, on y était. On attend le départ de 4 à 5 joueurs. Depuis qu'il l'a dit, il n'y en a pas un qui est parti.
Oui, mais dans les 4
donc
à
c'est
5
quoi
joueurs,
ça veut dire que d'un coup, là, tu vas remplir une bagnole et tu vas en virer 5.
Oui, mais dans les 4 à 5 joueurs, tu peux choisir. Enfin, le problème, c'est que tu ne peux pas choisir parce qu'il y a parce que Pacheco
a une
bonne cote. Mais
tu as tout dit, Walid.
Mais dans le.
Non, mais 4-5, tu as bien la proba quand même.
Dans l'idéal,
sur un bon joueur.
Bien sûr, mais tu sors Balerdi, très bien. Bon, tu as Agard Kondogbia en défense centrale,
tu
as CJ Riley, tu vois.
Tu vas pas avoir du mal à me convaincre que c'est une énorme
Timber. Timber au milieu de terrain, tu le sors. Tu vas avoir Hubert, Angel Gomez, Abdelli, Nadi. Pacheco, tu le sors, t'as déjà perdu Greenwood, c'est-à-dire que tes deux éléments offensifs clés de l'an dernier.
T'as Guiri.
Oui, d'accord.
Mais Guiri ne sera pas servi.
Oui, mais le problème de Guiri, c'est que Guiri ne te met pas 20 buts en Ligue 1. C'est un bon joueur de connexion, il ne te met pas 20 buts. Et surtout que Pacheco, aujourd'hui, il pète le feu. Et vraiment, autant l'année dernière, c'était un joueur qui était très bon en Ligue des Champions, mais parfois un peu brouillon
même
en Ligue 1.
Toujours très bon en Ligue des Champions quand même.
Oui, mais
là, c'est surtout que tu n'as pas assez de qualité pour te dire que tu veux te passer de lui.
Là, aujourd'hui, c'est le joueur dangereux, c'est le joueur frisson, c'est le joueur
dirais qui fait la différence.
Je te dirais presque que cet été, l'intersaison et le début de saison, c'est presque un désavantage pour l'OM. Parce qu'en fait, tout le monde était convaincu des qualités de Pacheco, mais franchement, il a explosé encore plus. Et là, les gens qui sont dessus, ils sont comme des dingues.
Surtout qu'il y a un marché des ailiers gauche, en Europe qui est très compliqué. C'est-à-dire que là, Arsenal va peut-être exfiltrer Martinelli en Arabie Saoudite. On en parle. En première ligue, même en Italie. C'est-à-dire que c'est un joueur de débordement, un joueur de percussion. Il n'y en a pas 10 000 aujourd'hui. Et donc, il va sur la fin de mercato, il y aura des attaques. Et s'il y a attaque, il y a vente. Donc, et moi, sincèrement, on était au vélodrome avec Daniel. On parlait que du match vendredi. Parce que le match était quand même d'une bonne qualité. On a été agréablement surpris parce qu'ils ont proposé. Bon, même si c'était face à une équipe de Strasbourg qui est elle aussi en totale reconstruction. Mais là, ce serait quand même la douche froide. Vraiment, moi,
il faut que tu ailles te faire prêter un joueur.
Non, mais même aujourd'hui, on parle de Dylan Bakwa à Lille, en prêt, qui est pour moi un super coup de Lille.
Lille, ils sont plus alertes, quoi. Où ils vont.
Et non, surtout, le problème de l'OM, c'est qu'ils ne peuvent pas enregistrer un joueur aujourd'hui. Voilà. Donc les joueurs, faut qu'à un moment donné, là, on est le 25 août, faut qu'ils aillent dans des clubs, les joueurs en difficulté ou les joueurs qui ont besoin d'une porte de sortie. Donc même là-dessus, l'OM est dans une situation qui est dramatique, en fait.
Qui se grouille de le faire, quoi, pour se laisser un peu de temps.
Exactement.
Mais est-ce que ce serait accepté à Marseille de dire bah, très bien, en fait, finalement, on perd tout le monde, on va jouer rien.
Mais ça, c'est accepté scénario. Ou pas, qu'est-ce que tu fasses
en fait. Non, moi, je ne sais pas autant. Moi, franchement, je ne sais pas autant.
Ça veut dire quoi la phrase?
Accepté, moi, je sais pas.
Daniel, qu'est-ce que tu veux qu'il fasse?
Là, ma conclusion, on est 8e, j'en ai rien à cirer, en fait.
Et donc, qu'est-ce que tu veux qu'il fasse?
Non, mais d'accord, mais moi, je pensais quand même qu'ils allaient avoir une équipe compétitive.
Et donc? Et donc, si t'es un climat, t'as une saison.
Les gens viennent plus, tout ça, mais qu'est-ce que tu peux faire, en fait?
Non, mais t'as une saison massacrée.
Bah oui, et alors?
Je pensais quand même que, comme Lyon l'année dernière, par exemple, ils ont quand même été compétitifs, Lyon. Avec des gros soucis. Oui. Tu peux pas bazarder une saison de cette manière.
Est-ce que tu sais encore, là, au moment où on se parle, ce que va être la saison de l'OM?
Non, je sais pas, mais bon, avec Abdallah, avec Mahdi,
ça part quand même moins bien qu'avec Greenwood.
Aguerd qui est fait en cristal. Il y a un moment.
L'exemple que tu prends de Lyon est intéressant. Bah, Genesio, en gros, quand il en a parlé récemment, il a pas cité Lyon, mais pas loin, quand il a dit, il y a des moments où le fait d'être dans la difficulté, enfin dans le fait de savoir qu'on va être dans la difficulté sous d'un groupe, et on a joué là-dessus, comme Lyon l'an dernier. Tu sais, il y avait cette idée que ça allait être compliqué, mais qu'on allait y arriver. On rappelle.
La différence, c'est qu'ils n'ont pas un patron comme Tolisso.
Non, mais Tolisso, justement, l'an dernier, rappelez-vous quand même au début qu'il jouait en neuf parce qu'il n'y avait pas de neuf. Lyon a commencé comme ça.
Donc, il y avait deux joueurs qui ont émergé.
Donc, pour répondre.
Je ne suis pas sûr que l'OM les essaie.
Non, mais pour répondre à tes interrogations, néanmoins, l'effectif lyonnais, on avait de gros doutes et avec le départ de Mikotadze.
Tu les voyais jouer le maintien. Tout le monde disait qu'ils vont jouer le maintien.
Quand tu écoutes Genesio depuis le début de la saison, je pense qu'il est sur ce scénario-là, que si les supporters ont bien entendu les difficultés financières de l'OM, ils savent, même s'ils ne le souhaitent pas, ils savent qu'ils vont repartir sur un schéma comme ça.
Au dernier moment, ils auront cherché un joker que Lorenzi va enfin se mettre à bosser.
Il peut pas bosser, le mec. On parle de Lyon. Comparons avec Lyon.
Il est en train de préparer. Au moment où on se parle, il n'écoute pas l'after. Il est en train de bosser.
Bien sûr.
Il est déjà en train de bosser sur le fait que Pacheco va partir et qu'il lui faut un remplaçant.
J'espère. Mais en fait,
il va peut-être aller chercher Del Castillo au Brest.
Oui, mais le problème, c'est quoi? Il joue de l'autre côté. Mais le problème, c'est quoi? Non, mais le problème, c'est quoi, Daniel? Non, mais Daniel, le problème, c'est qu'il faut 3 joueurs pour enregistrer un mec. Donc, il faut qu'il sorte Timber. Donc, il faut trouver là parce qu'ils l'ont trouvé Porto. Apparemment, il veut pas aller à Porto. Il veut qu'aller en première ligue. Balerdi, aujourd'hui, sa cote, elle est au plus bas. Il faut lui trouver une porte de sortie qui lui convient parce que ces mecs-là, ils ont des gros salaires et ils se plaisent quand même plutôt bien à Marseille. Højbjerg, il a quand même préféré rester à Marseille plutôt qu'aller à Newcastle en première ligue parce qu'il préfère vivre à Marseille et il est bien à Marseille. Il a déjà connu la première ligue. Donc, il faut quand même... une somme de plusieurs choses pour que ça se réalise. Et surtout, si on doit comparer à Lyon, Flo... Mais peut-être que je suis amnésique et tu vas me le dire très très rapidement. Mais si tu perds Pacheco, Balerdi, Timber et que tu n'as pas les ressources pour te renforcer numériquement ou même qualitativement, mais c'est pas pire que Lyon? avec l'Europa League, parce que Lyon l'année dernière, ils font Morton à 10 millions d'euros, ils font quand même le petit Alfonso Morera.
Tu sais, je pense que la situation est
en train de... Tu t'es quand même renforcé avec 2-3 coups. L'année dernière, Schulk, Karabek, t'as quand même eu 2-3 coups. Là, tu perds des éléments.
Tu crois que Lorenzi, donc là, ils vont perdre, s'ils perdent 3-4 éléments, tu crois que Lorenzi fait 0 recrue?
Bah, j'attends de voir, moi, qui va.
Non, ils font pas 0 recrue, c'est impossible. Ils vont pas les faire. Que puissent pas les faire.
Au passage, pour l'instant, le gardien, c'est Delange.
Numéro de Delange, c'est un crack, c'est Kevin qui le dit.
Oui, bon, c'est Kevin.
Apparemment, il cherche un numéro 2, donc ça veut dire qu'il va partir pour être numéro 1.
Les Portugais, les Hollandais, c'est des cracks.
Mais il voulait partir, mais moi, je trouve qu'il soit mauvais, Delange.
Non, d'accord, mais c'est-à-dire que même là, tu auras le numéro 2 de l'année dernière. T'as même pas de numéro 2.
Ça, c'est grave. Mais c'est pas grave d'avoir Delange, gardien de but de l'OM.
En 5 jours, tu t'imagines, en 5 jours, que tu. C'est qui ton latéral droit?
C'est pas.
C'est parce que Wea, si Wea, il est lié droit, qui est latéral droit cette saison de l'OM?
C'est pas en 5 jours.
Je te dis que
Lorenzi est en train de travailler.
Il est normal que Lorenzi soit en train de préparer quelque chose.
Même
si c'est pour remplacer avec des demi-selles, il va forcément prendre des joueurs, même si c'est des pas connus, même si c'est des seconds choix.
Combien de joueurs, Daniel?
Lorenzi fait rien.
Il va se faire prêter des mecs.
Lorenzi ne peut rien faire.
Lorenzi ne peut rien faire.
Non, moi j'ai pas dit ça. Moi.
Non, mais Lorenzi bosse comme un âne.
Bah,
il a des shortlists pour tous les postes. Mais oui, pour rien parce qu'il ne peut pas. Mais dès que les fonds seront partis, je dis pas qu'il va réussir des gros coups, mais il a évidemment.
Mais il faut les sortir, les mecs.
Oui, bien sûr.
En 6 jours, il faut sortir les mecs et faut ramener les mecs.
Mais si tu les sors pas, tu les as. Si tu sors pas les mecs, tu les gardes.
Ce serait peut-être la meilleure des nouvelles.
Peut-être la meilleure des nouvelles, mais
derrière, pendant toute l'année, il va casser la tête à tout le monde.
Exactement.
Et tu sais pas dans quelle situation tu te retrouves.
Ce que je veux te dire, c'est qu'en tout cas, pour revenir au début, les supporters, eux, même s'ils seront potentiellement furieux parce qu'ils rêvent peut-être, comme tu le disais, que Pachao reste et plutôt que les autres là dont tu as parlé partent, mais les supporters savent depuis, on va dire, allez, un mois et demi, que le scénario, c'est celui-là. C'est celui d'une équipe qu'il faut démembrer parce que tu n'as pas les moyens.
Autant je sais pas sans renfort. Je savais que c'était très compliqué. Autant là, je m'attendais pas à ça non plus. Et surtout à ce moment-là.
Loïc est là. Au 32-16 supporter marseillais. Salut Loïc.
Salut à tous. Salut, bonjour. Loïc.
Bon, tu trembles là parce que tu te dis je vais peut-être avoir l'effectif pour jouer la 10e place.
Bien sûr que jusqu'au dernier moment et à la clôture de tous les championnats pour le mercato, en tout cas, on va trembler. Et là où une fois, ce que je disais à Adrien tout à l'heure, là où une fois de plus on est exactement standard, là où on est vraiment pas brillant et vraiment pas bon, c'est que tout le monde sait qu'on doit vendre, on le crie haut et fort, et forcément plus tu vas t'approcher de la deadline, et à l'OM on sait jamais vendre, donc le mec que tu devais vendre 15, on va te dire c'est 3 millions ou rien. Et comme tu as besoin de ces 3 millions, tu braveras. Donc jusqu'au dernier moment, ils peuvent tous partir. Donc il y a une part d'appréhension, même s'il y a des jeunes de qualité. Mais il n'y aura pas la même exigence avec un jeune minot qu'avec un joueur censé être confirmé ou confirmé.
Il y a un front anti-McCourt qui est en train de s'organiser, j'ai l'impression.
Ça sert à quoi, je rappelle que
McCourt, par exemple,
ça sert à rien.
Ça sert à quoi, en fait?
Noël dernier, quand Vaz a été transféré, Benatia à l'époque espérait récupérer l'argent pour investir, et McCourt a dit non, l'argent il reste là, parce que moi j'ai trop mis.
En amont a été.
Donc je prends.
A été bien fait de la part du président.
Faut qu'on arrête aussi d'être stupides, nous, tous les supporters de l'OM, on est tout le temps en train de gueuler. Il faut se rendre compte que si l'Américain McCourt n'était pas là, on serait comme les Girondins, quoi. Donc faut arrêter les je vais être trivial et
Il y a une autre histoire.
Enfin, McCourt, quand même, il a été solide.
Il a dépensé sans compter aujourd'hui, notre ami américain. Donc, je pense qu'il faut à minima respecter un petit peu qu'on gueule et qu'on soit pas content, c'est normal. Mais à un moment donné, il faut être aussi
La question, c'est surtout, est-ce que entre Genesio Lorenzi et McCourt chez Razad, c'est-à-dire l'entourage, etc., est-ce que cette fenêtre estivale ne va pas laisser des traces déjà, quoi. C'est aussi ça la question en suspens qui va être intéressante.
Évidemment, les jours qui viennent vont être passionnants à Marseille comme à Paris. Donc, vous l'avez compris, on en a parlé tout à l'heure. Dans un instant, on parle des droits télé et de Rennes avant d'aller en Espagne. Et évidemment, on vous attend au 32-16 pour tous ces sujets. À tout de suite dans l'after.
Nous nous tournons vers vous. Il va falloir gagner. Il va falloir mettre des sous. Alors, puisque vous en avez, c'est ce que vous ferez. Voilà.
RMC, 22h, minuit, l'afterfoot.
Gilbert Brisbois.
Il est 23h18, Walid Acharchour, Florent Gautreau et Daniel Riolo sont là. Tout à l'heure, l'Espagne au programme, les débuts de Mourinho, notamment avec Edgar Grollo. Mais d'abord, la Ligue 1, évidemment, qui est prioritaire dans l'after, toujours avec Rennes. Parce que Rennes, Walid et Flo veulent en parler ce soir. Vous avez plutôt bien aimé, je crois, Rennes ce week-end. Mais est-ce que.
Et donc, déjà qu'on avait Flo pour parler de Rennes, si Walid s'y met.
Ah non, moi j'ai une exigence envers Rennes cette saison.
Ah, c'est quoi l'exigence?
À Rennes, je...
Top 3?
Bah, top 3, oui, bien évidemment. Moi, pour moi, Rennes
top
doit...
3, Rennes.
Rennes peut faire... Non.
Peut faire ou doit faire?
Non, doit faire.
Doit et Rennes, faire.
Et Rennes... Top 3, donc j'ai une place pour le PSG. Et après, oui. Dedans, il y a Rennes et qui?
Bah, je vais essayer d'expliquer. Non, mais et Rennes peut faire son meilleur résultat
ever.
D'histoire en Ligue 1. Pourquoi? J'explique.
Ça peut être le Lens de l'an dernier, par exemple.
Mais en fait, déjà, moi, je le dis depuis un moment, en fait, il y a que les autres qui ont le droit, en fait, à... En Ligue 1, c'est-à-dire que Lens qui fait deux fois deuxième, Brest qui fait troisième.
Et quand tu dis ça, tu dis pourquoi Rennes n'y aurait pas le droit.
Pourquoi Rennes n'a pas le droit une saison de surperformer
parce que Flo pourrait te le dire mieux que moi. Le problème, c'est pas qu'ils aient eu jusque-là les qualités pour le faire. Ouais. Ils ont souvent eu des belles équipes, mais c'est qu'à l'intérieur, ça partait toujours dans tous les sens. Il est possible que cette année, puisqu'on attendait cette association, c'était quoi ta formule? Tu m'avais fait marrer. On ne sait pas à quel moment, comment, par quel chemin, mais ça finira par faire aise à Rennes. Bon, finalement, ça s'est fait.
On a dit 8 mois avant.
Voilà. Oui. Mais non, ouais, c'est vrai. Alors c'est vrai. Que c'était improbable, mais on sentait que
ça
allait finir par arriver.
C'était juste une histoire de.
Enfin, il y a une connexion entre ce qui se passe en haut et ce qui se passe en bas.
Il se peut que ce soit l'année. Oui, je suis d'accord avec toi.
Non, mais ce que je veux te dire, c'est que aujourd'hui, avec ce qu'on vient d'expliquer de Marseille, avec Lyon qui va sûrement jouer la Ligue des Champions, avec Monaco qui a besoin de 100 millions de ventes et qui va encore se faire dépouiller, Lille. Qui a perdu Boadi, qui va peut-être perdre Fernandez Pardo, qui va aussi jouer la Ligue des Champions, lance la redescente de l'an dernier. Il y a un vrai coup à faire pour Rennes. Après, attention, on en a parlé avec Flo dimanche, il y a encore des manques, hein, mais Rennes doit avoir cette ambition-là. Et nous, en tant qu'observateurs, on doit avoir cette exigence avec cette équipe Ligue 1, Cresswell, Thomasson, les joueurs qui sont restés, Esteban Le Poll qui a pris une nouvelle dimension, Franquez qui a ce savoir-faire, qui l'a fait avec Nice, 4e place, et avec Lens, 2e place. Je suis désolé, mais Rennes... peu. En fait, j'aime pas l'expression c'est l'année ou jamais, mais j'ai envie de le dire ce soir. C'est que pour Rennes, Strasbourg qui doit se retaper une voiture aussi parce que ils sont en fin de cycle et qui vont repartir avec un nouveau coach, qui vont repartir avec des nouveaux joueurs. Rennes est normalement l'équipe la plus établie. Enfin, après le Paris Saint-Germain, c'est l'équipe qui a eu le moins de mouvement, qui normalement doit et qui joue l'Europa League bien évidemment, mais qui doit avoir cette ambition là. Sincèrement, après oui, bien évidemment que devant ça manque un peu de qualité autour de l'Opel. On en a parlé avec Flo. Et peut-être qu'ils doivent aller chercher quelqu'un.
Mais
aujourd'hui, en l'état, cette équipe-là, elle doit aussi donner à ses supporters une saison all-time, en fait. Une deuxième place, une troisième place. Ah, je suis désolé, je suis sur ce refrain-là.
Il est possible que ce soit aligné, alors.
J'aime bien
Thomasson Rongier, j'aime bien le côté taulier qu'il y a dans cette équipe avec ça, l'attaquant qui est en ce moment en pleine bourre.
Ils ont un gros neuf, un gros gardien, ils ont un gros coach.
Ça ressemble à une addition qu'on aurait plaisir à payer.
Alors, attention, laissez parler le
spécialiste.
La douche froide.
L'homme de Rennes.
Il n'y a que lui qui peut parler de Rennes.
Non, alors moi je te dis effectivement que ton rêve va rester un rêve si
je dors bien la nuit. Rêver de Rennes deuxième, je pense que.
Non, mais c'est ce vœu que tu appelles. Enfin, c'est ce que tu appelles le TV, ce que les Rennes appellent leur vœu, tu as tout à fait raison. Eux, ils pensent comme toi. Il y a plein de supporters qui disent c'est dingue qu'on n'ait pas pu être plus haut, plus souvent sur les 10 dernières années, et c'est vrai. Mais je vais te dire un truc, ils auraient pu plus facilement l'être à l'époque Terrier-Bourigeaud que sur cette saison. Pour revenir à ce que tu dis, je pense à ce que vous dites. Oui, évidemment, l'équipe est pas mal, l'alignement est meilleur, et Aise, c'est sa saison. Parce que l'an dernier, c'était pas le Aise 100%, il n'a pas toujours tout montré. Là, c'est sa saison. Donc, il y a plein de choses qui sont alignées. Il y a une prépa qui est à 2-3 exceptions près plutôt bonne, et il y a ce premier match contre le PSG qui laisse augurer de bonnes choses.
Et on a parlé du Maradona jordanien.
Ouais. Là où je douche, là justement, je vais y venir.
Il va avoir une autre tête
de cette année. Non,
sous-marin.
Attendez les gars, juste sur la douche froide et les bémols que je mets. C'est que là, tu me dis, là maintenant, toi, tu me dis, là, Rennes, ils nous doivent la deuxième. Ils peuvent faire deuxième ou troisième. Moi, je te dis non. Non, absolument pas. Là, il manque des ailiers autour de l'épaule, des bons ailiers. Alors, Altamari, je ne vais pas revenir sur le débat, c'est un bon joueur et il peut être dans l'effectif. Est-ce que vous voulez le faire sortir? Les autres dirigeants sportifs veulent le garder, d'ailleurs, au passage, plutôt. OK. Mais la qualité manque sur les deux ailes. Donc, Soumaré, effectivement, c'est totalement insuffisant. Et sur le recrutement qui est fait, en général, depuis cet été, vous avez parlé des bonnes choses, vous. Mais derrière, Reynolds, qui a été recruté derrière, ça semble un peu léger. Mayenda, qui est celui dont vous parlez pour être un attaquant.
20 bâtons, ouais.
Mayenda, 22 millions.
Ouais. Ils ne sont pas trompés, quand même.
Non, mais on ne sait pas si c'est trompé. Tu n'as aucune certitude. La preuve, c'est qu'ils sont en recherche d'un attaquant aujourd'hui pour remplacer Mbolo.
Là, c'est leur boulot, alors. Okay. Ils font leur boulot.
Qu'est-ce qu'il vient faire un deuxième soir?
Oui, non. Et donc si tu veux, pour répondre à ta question et pour toucher votre enthousiasme, je pense qu'on se laisse hyper par cette intersaison et ce recrutement Thomasson et Cresswell qui sont de bons recrutements. Mais on oublie que derrière, pour moi, sur les deux ailes, il y a un souci. C'est-à-dire que tu n'as pas la qualité suffisante. Là, je te parle top 3. Hein, parce que okay. Si c'est pour jouer top 7, oui, là, l'équipe okay. Là, va jouer top 7.
On fait tous les concurrents de Rennes, les soucis qu'il y a dans l'effectif.
Non, parce que tu as dit Rennes, oui, là, à l'heure actuelle,
moi, je compare.
Non, tu m'as dit Rennes, et c'est suffisant, peut faire top 3. Ouais. Moi, je te dis que si tu ne recrutes pas un attaquant meilleur à côté de Lopold et des ailiers ou un ailier au moins meilleur que ce que tu as aujourd'hui, ça n'est pas suffisant. Oui, mais c'est pour ça que je te dis top 3 aujourd'hui. Ouais. Non.
Ouais. Et je reprends. C'est qu'une histoire de qualité pour toi.
Ouais. Dans l'effectif, il manque des choses. Il y a des manques pour faire ce top 3.
C'est-à-dire que toutes les équipes de Ligue 1, les dernières années qui ont fait top 3, ils étaient armés de partout. L'année dernière.
Non, c'est pas que je savais, c'est que je te dis qu'aujourd'hui, je sais en tout cas que certains postes ne sont pas suffisants.
Il n'y a pas de vérité absolue.
Non, mais il n'y a pas de vérité absolue. Tu penses qu'avec Soumaré, gauche, tu peux y arriver
avec Ludovic. Non, mais t'as Ludovic Blas, t'as Nordin, t'as
arrêté. T'as les uns après les autres.
Il y a des mecs qui se sont révélés. Sauf que on là, on s'attendait pas à ce qu'ils soient si bons.
Sauf que là, je te parle pas de Flo Thauvin ou de joueurs comme ça.
Non, on parlait même pas de Thauvin.
Sauf que moi, je te dis aujourd'hui que je sais que Soumaré, si tu me dis top 3, je sais que Rennes fera pas top 3 avec Soumaré, ailier gauche, avec Altamari, ailier droit, et avec pas de deuxième attaquant, avec Le Pol pour le seconder.
Mais moi, ce que je dis ce soir,
c'est tout.
Bien évidemment qu'il y a des manques.
Comme il y a des manques
au PFC, comme il y a des manques à Strasbourg, comme il y a des manques à Lille, comme il y a des manques à Monaco.
Lille et Lens sont mieux armés aujourd'hui que Rennes.
Mais peut-être.
Tu m'as dit top 3, Daniel.
Je ne sais pas si tu as vu Lens au Serre, mais Lens derrière, avec la perte de Malanxa, avec la perte de Gradit, avec la perte de Baïdou, je peux te dire que derrière, c'est très fébrile, Lens. Et ils ont besoin aussi d'un défenseur central.
D'accord.
Donc si tu veux aller par là, aujourd'hui, on est dans une Ligue 1 où il y a des imperfections de partout. Moi, je veux aller dans ton sens. Sur le côté, il manque un joueur ou deux. J'ai aucun problème là-dessus.
Maintenant, je
dis juste que, au global, d'accord, pour terminer, ceux qui ont fait top 3 ou même top 4, parce que le quatrième, ça restera un résultat incroyable pour Rennes. En tout cas, un très très bon résultat. Mais tu prends Nice, tu prends Brest, tu prends Lens sur les dernières années. Quand tu commences la saison, Flo, tu fais la même chose que ce que tu viens de faire. Et donc, Rennes a aussi le droit d'avoir un coach qui suroptimise comme à l'époque de Lens.
Non, je vais te dire ce que je pense pour aller dans ton sens. Si tu veux aller sur ce top 3 que tu peux prendre parce que tu as raison, les concurrents, eux, ont des manques.
C'est plus par rapport à ça, moi.
Alors, dans ce cadre-là, je dirais même qu'il faut combler ces failles-là. C'est l'année ou jamais pour faire l'effort supplémentaire dans cette fin de mercato pour combler les failles dont j'ai parlé. Okay. Et là, ça peut être intéressant. Parce que, justement, à Rennes.
Tu penses qu'ils vont le faire?
Je suis persuadé déjà qu'ils sont sur un attaquant, là. C'est évident, parce que c'est devant, c'est impossible de mettre que le pôle toute la saison. Parce que Mbolo, c'était important de jouer.
Et tout, c'est bien
je pense qu'il y a un doute pour l'instant sur les ailiers, et donc tu veux avoir la possibilité de jouer à deux devant parfois, d'avoir deux systèmes, d'une part. Deuxièmement, je pense quand même, j'imagine, connaissant, on va dire, sa vision technique du football, que ces deux ailiers, les deux ailiers qu'on a aujourd'hui à Rennes, sur le terrain, je pense que s'il pouvait avoir mieux, il prendrait mieux.
Sur WhatsApp te dit Rennes, 3e budget de Ligue 1.
Ben oui, mais aujourd'hui, on doit avoir une exigence envers Rennes.
Surtout avec une
Ligue 1 aussi pauvre.
Je t'empêche pas d'être exigeant.
Je te dis au contraire. Tu as raison, dans le sens où 3e budget de Ligue 1, tu peux, avec les carences des autres, être troisième. Dans ce cas-là, il faut mettre un petit coup sur l'accélérateur. Oui, pourquoi? Un, parce qu'il y a des manques. Et deux, parce que je pense qu'il y a eu deux, trois, comme d'habitude dans le mercato, il y a eu les deux, trois bons trucs. Et il y a les deux, trois trucs qui commencent déjà à y avoir des doutes. Parce que Mayenda, on n'a pas vu.
Ouais,
on a
le niveau.
Ok, on va attendre, on va attendre. Mais il y a des mecs que tu n'as pas vu jouer.
Parce que si tu as mis 20 millions sur Mayenda, il est déjà cramé, c'est mort.
Il n'est pas cramé.
Ouais, non, mais quand je veux te dire ça, c'est
il n'est pas cramé. Ouais. Je te dis juste que je pense qu'aujourd'hui, Aize est. Dans toutes les discussions, il y a des fois des, je dirais pas des dissensions, pas des conflits, mais il y a des différences d'appréciation parfois sur certains joueurs. Je pense que là, lui, il sait exactement, quand tu écoutes son discours d'après-match, il sait exactement là aussi où il y a des manques. Et dernier point, deux derniers points. On a vu Rennes contre le PSG et Aize contre le PSG et tout ça, il sait faire.
Ouais, il sait faire.
On en a parlé l'autre jour.
Face au bloc bas,
cette équipe-là, là, telle qu'elle est, et notamment avec ces deux ailiers-là, ça va pas être la même histoire.
Donc, pour moi, ce problème n'est pas un ailier.
Donc,
c'est un
voilà. Donc, il y a un vrai souci parce que si Rennes veut être dans les trois premiers, c'est pas contre les gros qu'ils vont le gagner ou le perdre. C'est comme d'habitude contre tous les autres. Et ça, il faudra aller le chercher. Et dernier point, c'était sur ici Armory, c'est Gaël Dany qui est consultant là-bas, qui l'a dit. Mmh. Il dit, il manque un truc dans cette équipe. Lui, c'était son ressenti. Je suis assez d'accord. Qu'il y a eu à Rennes plusieurs fois. C'est le joueur. Souvent qui a été coté, mais peu importe, ou axe, mais le joueur décisif qui arrive à te faire la diff dans les moments compliqués.
Ouais.
Et il prenait l'exemple, évidemment, Bourigeaud.
Ouais.
Et il avait évidemment parlé de Terrier, de Doku, tu sais, de joueurs comme ça.
Oui, alors, et Doku à Rennes, il était très irrégulier.
Ah non, Doku à Rennes,
oui, il avait des bonnes périodes, mais il était très irrégulier.
Je veux dire, il l'a cité,
oui.
Non, mais c'est exactement le type de joueur qui te faisait la diff sur les matchs.
Mais voilà. On était souvent aussi frustrés.
Ouais, mais en l'occurrence, il a quand même.
Après,
il a quand
même fait du coup, c'est pas sous-marré.
Non. Voilà. Allez, et justement, d'ailleurs, pour terminer, il y a la fameuse le gros truc qui circule à Rennes depuis 2-3 semaines. C'est le retour
de Terrier,
de Martin Guerre, de Martin Terrier.
Ah ouais.
Enfin oui, c'est le truc que tout le monde souhaite et qui traîne
si
dans
jamais,
les.
Si jamais il revient.
Mais il est en train de revenir.
C'est pas la fausse belle histoire, si c'est ça.
C'est pas la fausse belle histoire. Mais lui, c'est complètement perdu. Ouais, alors qu'il était pas derrière la porte de l'équipe de France, mais
la Ligue 1, l'ascenseur. Et Rennes fait pas.
Allez. Pendant ce temps-là, Linz est en train d'éliminer le Celtic 5-1 pour les Autrichiens. Ils ont même raté un péno
là.
Ouais, et ben d'ailleurs, ce soir, il y avait le match tout à l'heure entre Beersheba, l'Israélien, et le club de Saba, le club azéri.
C'était pareil. Ouais, Bakou, ouais.
C'était pareil, renversement de situation. Bref,
ce match, il est dingo. Hein.
Voilà, belle soirée de foot.
Je serais bien allé à Nîmes voir ça.
Exactement. Au Savoyard, il aura ramené son chocolat.
Exactement.
Dans un instant, Ligue 1 Plus, les futurs droits télé peut-être, des infos, et puis l'Espagne. A tout de suite dans l'After.
RMC jusqu'à minuit, l'afterfoot.
Gilles Darbribois.
Il est 23h32, Daniel Riolo, Walid Acharchour et Florent Gautreau sont là avant d'aller en Espagne. Avant les gars, plus de trois petites infos du jour, vous dire que le gardien paraguayen Orlando Gil, celui de la Coupe du Monde, hein, il était pas mal, hein, ce gardien, rappelez-vous. Mmh. Eh ben, il arrive à Lille. Peut-être qu'il serait meilleur que le gardien turc Ozer, on va voir.
Récupérer finalement les Strasbourgeois, comment il s'appelait, notre ami paraguayen, là, le joueur.
Chilavert.
Mais non, le défenseur, le mec qui mettait des coups partout là.
Galarza.
Non,
oui, Galarza, et... terrain, Galarza.
Oui, il m'a mis
terrain. Il y a eu effectivement un intérêt parce que Blouko s'intéressait.
Si, Blouko qui était dessus.
Ouais. Finalement non. Et puis donc l'arbitrage, il faut signaler que dans le débrief du jour, désormais c'est une habitude, hein, la direction technique de l'arbitrage fait son débrief tous les mardis. Et donc ils ont dit, on a dit vite fait en début d'émission.
Pour moi c'est incompréhensible.
La faute de main sur le premier pénalty de Lens contre Auxerre n'était pas caractérisée. Le pénalty n'aurait pas dû être sifflé. La des arbitres assistants au VAR. Qui était Jérôme Brizard, est allé dans le sens de Mathieu Vernis au moment de la réification. Il a dit pénalty confirmé, Matt.
Matt, il l'appelait Matt.
On est d'accord que le rouge de.
Donc là, c'est quand même fantastique.
Le rouge a été confirmé.
Par contre, le rouge d'El Mourabet et le pénalty sur Pachao, et ils ont été confirmés, Daniel. Vendredi soir.
Mais j'ai l'impression.
D'accord, ce que.
C'est fou là, dans cette histoire, c'est que le gars du VAR.
Il était confirmé aussi.
Par l'action de Simard.
Il a été justifié. Hein.
Non, je ne suis pas d'accord.
Moi non plus, je ne suis pas d'accord.
Donc le VAR est censé corriger les erreurs manifestes.
Beaucoup trop vite.
Le VAR est censé corriger les erreurs manifestes. Le VAR n'a rien corrigé. Et trois jours plus tard, on nous dit oui, bah, effectivement, c'est une erreur.
Moi, ce qui me surprend.
Mais Auxerre, il n'y a pas de problème pour Auxerre.
Ce qui me surprend sur le truc d'Auxerre, c'est que c'est forcément un truc à aller revisionner. C'est-à-dire que même si Brizard a cet avis-là, la règle qui dit main délibérée.
Il y a un mec derrière l'écran qui dit oui.
Non, d'accord, mais comme l'autre a donné péno, il peut dire à l'arbitre, va revoir parce que moi je trouve qu'il lui tient le bras ou machin. Il lui dit à aucun moment que l'autre lui tient le bras. C'est quand même un truc de fou. C'est un truc de fou. Donc moi, si tu veux.
Pas penalty non plus pour sur Cuisance Auxerre. Penalty d'Auxerre, pour moi, c'est un penalty de compensation. Bon, c'est anecdotique, mais.
Bon, allez, passons à la suite.
Ouais.
Ligue 1 Plus, Daniel, tu voulais faire un point ce soir parce que donc un appel d'offres peut arriver dans les semaines qui viennent. On en parle dans l'after depuis plusieurs semaines.
Absolument.
Déjà. Mmh. Nicolas Taverneux, qui d'ailleurs était il y a vrai un an avec nous, évoquait déjà le futur appel d'offres. Alors, il n'est pas donné de date.
Juste avant d'entamer sur ce sujet, je retire mon scénar du départ parce que pendant qu'il parlait de Rennes. Je bricolais un petit peu, je recevais 2-3 messages sur un sujet un peu bouillant.
Dembélé, donc.
Et voilà, voilà. On est plus tellement là-dessus maintenant.
Pourquoi sur un départ?
Ça a été rapide.
Bah, il faut parler avec les gens.
D'accord.
Les choses bougent. On est bouillant.
Hein. Ah, c'était pas un, tout à l'heure, c'était pas une info, c'était un pressentiment, c'était un gros une vision.
Non, il y a des versions un peu divergentes.
D'accord.
Il y a des choses, des gens qui parlent.
Ouais, non, moi, j'y crois pas.
Faut faire le poids entre les gens qui parlent.
Mais là, ok.
Enfin, faut peser le poids des mots de ceux qui parlent.
Ah ouais, ok.
Donc, il faut prendre la balance et puis tu vois, quoi.
Ok.
Je crois que ce soir, le nouveau patron de l'AFP Média a donné une interview à l'AFP.
Monsieur Bramley.
C'est Bramley qu'on dit? Je crois que c'est Branly, on dit pas Branly.
C'est un N.
Pas comme le quai Branly.
Non, le quai Branly, c'est un N.
Eh oui, c'est pardon. Donc il a confirmé qu'un appel d'offres était envisageable avant la fin de l'année. C'est une information qu'on avait donnée au mois de mai, je crois, puisque ça faisait partie de la stratégie de Nicolas Taverneux, qui nous en avait parlé ici, et que de toute façon, il n'a jamais été question que Ligue 1 Plus soit autre chose qu'une solution transitoire. On l'a su depuis le début, c'était faute de mieux et faute d'autres solutions que la chaîne avait été créée. Pourquoi cet appel d'offres? Pour aller tester le marché, parce qu'on a récupéré tous les matchs et que il semblerait qu'il y ait un frémissement de la part de certains opérateurs et un intérêt. Alors il y a beaucoup de présidents qui continuent de fantasmer sur l'idée que Canal serait la meilleure solution. Il est fort probable que ce soit la meilleure solution. Effectivement, le passé, la mise en valeur du produit, il y a plein de raisons qui peuvent pousser à considérer que c'est la meilleure solution. Sauf que pour l'instant, Canal n'a pas encore bougé. Ça reste encore de l'ordre du fantasme, comme ça l'était il y a un an, comme ça l'était il y a 2 ans. À chaque fois, on rêve de ça, mais il n'y a pas de retour. Alors donc après, il y a tous les autres opérateurs. On a parlé d'un frémissement du côté de Disney+, DAZN. Enfin bref, tous ceux qui sont susceptibles de diffuser. Donc on testera. Alors
ça vaut combien?
Quand on parle avec les présidents, j'ai parlé avec 4-5 présidents aujourd'hui. À 200 millions, ils seraient d'accord.
Ah ouais.
Après, il y a les conditions.
Ah, c'est mieux que zéro.
200 millions, c'est la durée du contrat. Est-ce que tu revalorises, si en un an, tu prends, j'en sais rien, 300 000, 400 000 abonnés supplémentaires, est-ce que tu revalorises le contrat? Tout ça, c'est des conditions qui peuvent être mises dans un contrat. Mais si on commence à discuter à 200, je pense que tout le monde se met à la table et tout le monde discute, parce que de toute façon, c'est mieux que zéro. Parce que la situation, elle est ce qu'elle est, et on sait qu'elle est catastrophique, et que Ligue 1 Plus n'a jamais prétendu améliorer considérablement la santé financière. C'est ça, en fait.
Il voulait améliorer le produit, surtout.
L'autre facette. Oui, la mise en valeur du produit,
c'est bien fait.
Je pense que tout le monde est de cet avis, d'ailleurs. Ouais. C'est plutôt bien ce que fait Ligue 1 Plus. Personne ne se plaint. Au contraire, on a une revalorisation du produit. En plus, les matchs sont intéressants. Le championnat est redevenu attractif. C'est plutôt bien, quoi. Tout ce qui est en train de se passer. Moi, j'ai trouvé ça un petit peu bizarre. Le papier qui est sorti hier dans l'équipe. Donc, écrit par, on le sait, quoi, le porte-plume de Vincent Labrune. Parce que ils nous ont vendu ça comme une info, je le répète, on l'a dit il y a 4 mois qu'il y allait avoir cet appel d'offres. Et comme par hasard, c'est sorti là maintenant. Et comme par hasard, dans la foulée, il y a tous les comptes qui ont 2-3 abonnés, là, tous les comptes très proches du PSG, qui se sont excités toute la journée sur le dos de Joseph Gourian, sur le dos de tous ceux qui disaient que Ligue 1 Plus serait la solution. Mais jamais personne n'a dit ça, en fait. Donc, évidemment qu'il y a eu orchestration, comme d'habitude. Il y a orchestration parce qu'en sous-main, Vincent Labrune pousse, parce qu'on sait très bien qu'il va devoir quitter son poste logiquement avant la fin de l'année. En fait, il s'accroche comme c'est pas permis là. Vraiment là, c'est une morsure. Moi, j'allais sortir une formule, on va s'en passer. Hein.
Oui, c'est mieux, merci.
Oui, parce que tu sais que le procès est terminé avec Vincent Labrune, donc on va éviter d'en ouvrir un deuxième. Encore une bonne nouvelle. Hein. Bon bref. Tu sais qu'il y a eu la loi sur le sport qui fait qu'il va devoir partir. Et il aimerait bien partir en disant, regardez, j'ai trouvé quelqu'un, c'est moi qui suis le sauveur, j'ai réussi.
Le sauveur?
Bah, j'ai réussi à trouver un diffuseur. Non, mais il s'accrochera jusqu'au bout. Mais effectivement, c'est un petit peu curieux là ce qui s'est passé, l'agitation à nous faire croire, enfin certains comptes à nous dire, ouais, Ligue 1 Plus, vous avez vendu, mais enfin tout le monde a toujours su et tout ce qui est en train de se passer là est exactement ce qui est prévu depuis un an et demi. C'est-à-dire qu'à terme, il fallait redresser le produit pour pouvoir le vendre à quelqu'un. C'est ce qu'on va essayer de faire dans cet appel d'offres, mais il se peut que l'appel d'offres soit infructueux et qu'on reparte avec Ligue 1 Plus pour une année supplémentaire.
Et après, qu'est-ce qui va se passer s'il y a un appel d'offres et enfin, comme à l'époque de DAZN, si après...
On décide de la durée, c'est 27-34 ou c'est 27...
Mais si après c'est pas rentable pour le diffuseur, si on repart sur le même schmilblick, quoi.
Si le diffuseur, il achète, si c'est Disney+, il achète 200 millions ou 250 millions sur 4 ou 5 ans, déjà le contrat, c'est sécurisé. Pour l'instant, je crois qu'il a utilisé la formule, Monsieur Bramley, il a dit que Ligue 1+, pour l'instant, c'est quoi l'assurance vie. Oui, c'est vrai, c'est l'assurance vie. Mais tu sais, il faut la faire monter, la faire fructifier. Et l'assurance vie, pour lui donner de la valeur, il faut trouver un diffuseur. Mais c'était prévu depuis le départ. Et après, le diffuseur, c'est à lui de rendre rentable le truc. Mais c'est pour ça que, autant la rentabilité à 600 millions, elle a toujours été aléatoire, à 1 milliard, impossible. À 200 millions, si tu bosses bien, tu dois faire assez d'abonnés pour que ce soit rentable.
Allez, on suit le dossier, bien sûr. Dans un instant, l'Espagne. Bougez pas, l'after revient tout de suite.
RMC jusqu'à minuit, l'afterfoot.
Gilbert Bribois.
23h41 minutes, Florent Gautreau, Walid Acharchour et Daniel Riolo sont là. Edgar Groslot nous rejoint. Edgar, bonsoir.
Salut Gilbert, salut tout le monde.
Oh là là, il est de retour.
Edgar, qui désormais tous les mardis va nous faire la chronique des vedettes de l'Espagne. Et il y a une nouvelle de vedette.
Plaisir.
Grosse vedette, c'est José Mourinho.
C'est la vedette.
Est-il encore une vedette?
Il m'a remis dedans, moi, avec son documentaire Netflix.
Moi aussi, je suis de nouveau à fond là-dessus.
Même si sur le documentaire, ils auraient quand même pu mettre sa partie où ça se passe mal.
Il manque beaucoup de choses dans le documentaire.
Il manque beaucoup de choses dans le documentaire.
C'est un doc Netflix.
Mais
c'est
voilà, souvent comme
mais ça nous a remis un peu dedans.
Le but n'est pas que ce soit informatif.
Oui, mais bon, quand c'est le but, c'est qu'à travers... Quand c'est une biographie de toute sa vie...
Le but, c'est qu'à travers, néanmoins, tout ce qu'on nous montre, d'essayer de trouver ce qu'on ne nous montre pas, justement... Et je pense qu'on l'a tous compris, on n'avait pas besoin du doc pour ça. Sur sa fin de carrière, il y a beaucoup de choses qui sont devenues plus difficiles à appréhender pour lui. D'ailleurs, c'est dit par certains joueurs, quand il est revenu la deuxième fois à Chelsea, et que ça s'est mal terminé, son rapport aux joueurs avait changé, et l'attitude qu'il avait pu avoir avant, il ne l'avait pas. Et le doc se termine sur son arrivée au Real.
Ouais.
Et la question qu'on est forcément obligé de se poser, c'est a-t-il encore les épaules pour gérer ça ?
Et la nouvelle génération.
Un tel club, la nouvelle génération. Et, ça. Et d'ailleurs, quand il est revenu au Real, est-ce que tu t'es pas dit, Walid, est-ce que tu t'es pas dit, Edgar Flo, est-ce que vous n'êtes pas dit, si Mourinho revient dans un tel challenge, parce que les derniers challenges, c'était Fenerbahçe, Benfica, un tel challenge, est-ce que c'est pas au minimum pour dire à Florentino Pérez qu'il l'a toujours kiffé, ok, je reviens, mais on fait le ménage dans le vestiaire, on fait du comeback Mourinho année 2000 hein.
Ouais.
Moi, j'étais sûr qu'il ferait ça. Mais
non.
J'étais sûr qu'il obtiendrait le départ d'un tel et d'un tel, qu'il restructurait. À l'arrivée, rien du tout. Il se passe rien.
Ouais.
À l'arrivée, il va falloir qu'il nous fasse croire qu'il est capable à nouveau de gérer. Mais là, on n'est même pas dans les égos, même époque Chelsea.
Et d'ailleurs,
il y avait des super. Il a eu Mourinho, il a eu des joueurs
club,
en béton armé dans les mains dans sa carrière.
Ça, en général, le Real, personne ne veut partir.
Mais là,
moi, je suis d'accord avec Daniel. Le truc en dehors du doc, mais là, sur le Real. Après Edgar
sur le doc il brûle quand même Iker Casillas, une légende du Real Madrid,
a priori à juste titre.
Mais est-ce qu'il pourrait le faire aujourd'hui?
Non, mais en tout cas c'est vrai que c'était la question que je me posais, et puis je m'aperçois non seulement dans l'intersaison mais y compris dans les compos que en gros il va se retrouver emmerdé et que t'as déjà les ferments des futures crises à mon avis au Real qui sont en devenir. Parce que la victoire à la dernière seconde miraculeuse avec Espi dans ce match là où déjà c'est très très compliqué, et effectivement
si tu notamment dans la compo de l'an dernier c'est la même chose
exactement,
et la compo
mais
l'an
sauf
dernier,
que l'an dernier il y avait pas Espi.
Oui, voilà.
C'est déjà une solution apportée par le mercato. Alors le mercato, il est pas parfait parce qu'il y avait tellement de problèmes que tu pouvais pas tout résoudre en un mercato. Mais je pense que t'as quand même un certain nombre de problèmes qui ont été réglés cet été.
Ah ouais, tu penses ?
Ah ouais, lesquels ?
Ouais. Non mais, franchement, quand tu vois les recrues déjà défensivement, un joueur comme Cucurella, mais t'en rêvais jouer l'année dernière.
Ok.
Mais même un joueur comme Konaté, je veux bien que ce soit pas aujourd'hui.
Konaté sur le but là, pareil.
Après, il fait pas un mauvais match.
Mais Konaté, tu vas voir l'histoire. Tout ce que tu attends, après tu me diras, mais moi je suis un peu sur la ligne de Walid, c'est que moi j'ai regardé effectivement l'intersaison et aussi le premier match et la compo. Il va se retrouver emmerdé avec les mêmes problèmes et en plus avec certains joueurs comme Konaté qui sont quand même descendus dans la hiérarchie en équipe de France, qui restent sur un an et demi très compliqué et il ne prend pas, il ne prend pas son prime. Mais il n'y a pas que revanchard.
Le problème Edgar, c'est surtout le milieu de terrain avec Bernardo Silva qui est bouilli. Alors il peut avoir il peut avoir de la possession défensive, mais pour moi t'as pas réglé ton problème au mitard. Et puis surtout c'est devant. Pour moi Arda Güler est un joueur axial, pas un joueur de côté, et il a refait la même compo que contre l'Atlético de Madrid de Xabi Alonso l'année dernière. Alors, heureusement que Bellingham a fait un grand match, mais t'as toujours le manque de connexion entre Vinicius et Mbappé. Et le problème, on en parlait avec Lucien Riquet en début d'after, c'est que les deux sont moyens. Enfin, pour moi, Vini est vraiment plus problématique que Mbappé sur le match, mais Mbappé est aussi moyen et les deux ne sortent pas.
Et on parle pas de la communication de Mourinho à l'égard de Vinicius. Oui. Et depuis qu'il est arrivé.
Et les deux ne sortent pas.
Pour
moi,
le protéger de façon exagérée.
Mais déjà, ne tirons pas des conclusions d'un match face à l'Espagnol.
Walid finit, ensuite Edgar à la parole.
J'imaginais que Vinicius aille à Arsenal pour ce gros transfert. Il a été prolongé. Et qu'aujourd'hui, moi, si tu rajoutes à ça Diomandé qui est arrivé pour 120 bâtons, pour moi, rien n'a changé. Alors oui, il y a une amélioration ou deux derrière, mais j'attends dans le jeu, j'attends de voir.
Alors Edgar.
Non mais Walid, non mais en fait moi je comprends tout à fait ces arguments là et on les entend et on les a partagés ensemble sur les deux dernières années de se dire que l'effectif il est pas parfait, qu'il est déséquilibré, etc. Mais au bout d'un moment il va falloir aussi se mettre face à la réalité qui est que c'est un très bon effectif qui est pas parfait mais c'est un très très bon effectif. Quelle équipe au monde a Tchouaméni, Valverde, Camavinga, Bellingham, Güler, Bernardo Silva juste au milieu de terrain? Quelle équipe a Vinicius, Diomandé, Rodrigo même s'il est blessé, Brahim Diaz, Kylian Mbappé?
Oui mais c'est trop,
mais
c'est
ok
trop.
C'est trop,
il y a trop d'ego,
mais
il y a trop
moment,
de
faut arrêter de chercher
action.
L'excuse, mais il faut arrêter tout le temps de chercher l'excuse, de se dire ouais mais il y a plus gros, il y a plus
non mais il y a pas d'excuse, mais le gros problème Edgar,
t'as quand même des très bons joueurs, t'as quand même du matériel,
t'as fait l'audit pendant toute l'année dans le drôle de dame, on était d'accord en disant il faut
couper
d'accord,
une tête. Mais au bout d'un moment, faut passer à autre chose. Non, mais il faut essayer de faire avec ce que t'as aussi.
Oui, d'accord. Mais là, parce que tu viens de rentrer dans ta nouvelle classe avec ton nouveau coach, tu penses que José Mourinho, en fait, moi, j'ai un problème avec le Real Madrid, c'est que comme là, il y a une nouvelle personne, on se dit, ah bah, avec lui, ça va fonctionner. Il y a l'ego de se dire, avec lui, ça va fonctionner. Mais il va se confronter aux mêmes choses.
Moi, je suis absolument, sur le fond, je suis d'accord, mais ça ne peut pas empêcher
d'y croire. Oui.
C'est pas d'y croire.
Oui, pourquoi pas, mais on peut y aller.
C'est de te dire qu'une personnalité, même si je pense qu'il est usé, parce que
tu le vois, c'est plus le même.
C'est un métier qui demande une telle énergie que je pense qu'il ne l'a plus. Mais il y a, même si c'est, je sais pas comment évaluer ça, 1/10, 2/10 que ça arrive, t'es obligé de te dire, allez, pourquoi pas. Mais d'ailleurs, je pense que c'est ce qui a motivé Florentino Pérez, c'est de se dire, lui va y arriver, parce que je le kiffe, je sais pas pourquoi, c'est un peu, je sais pas.
Lui va y arriver, mais on va prolonger Vinicius.
Exactement.
C'est lui, il aura le courage de prendre les décisions que les autres n'avaient pas
pris. Mais pour l'instant, il a fait quoi?
Mais pour l'instant. Mais non, mais il y a eu un match face à l'Espagne, Barcelone. Vous voulez qu'il fasse quoi? Qu'il prenne quoi comme décision? Et ça fait deux semaines qu'il est avec les joueurs.
Je te donne un exemple, Edgar. Espi, là. Il fait un mois où il met but sur but du parking et tout, etc. Et il démarre un match à Espi?
Écoute, il a dit aujourd'hui qu'il pouvait fonctionner avec Kylian Mbappé, qu'ils pouvaient être titulaires ensemble, et qu'ils n'avaient pas les mêmes profils.
Donc demain, Mbappé à gauche, Espi et Vinicius sur le banc, c'est possible pendant un mois au Real Madrid.
Mbappé, il joue plus à gauche.
Il faut
arrêter avec les débats. Mbappé à gauche.
S'ils sont compatibles, il va jouer où Mbappé?
Mais tu peux avoir, ça existe quand même des équipes
Mbappé,
de deux joueurs qui peuvent occuper
Mbappé,
l'axe.
Mbappé, c'est même plus la question. Mourinho a dit, il est stratosphérique.
Non, mais d'accord, ok.
Mais il est intouchable.
Posons la question, comment il va animer avec Espi si demain, parce que les statuts.
Espi, il est pas titulaire aujourd'hui.
Non, mais d'accord, non, mais je te pose la question. Non, parce que tu m'as dit. T'as expliqué en disant lui Mourinho il fera les choix sportifs dans la dynamique sportive comme un
ambitieux. C'est pour ça qu'il a été pris en tout cas.
Voilà, c'est pour ça qu'il a été pris. Donc je te donne.
Ça, on est tous d'accord.
Je te donne un scénario. Si Espi qui est là aujourd'hui le tube de l'été, je te dis pas que ça va arriver, mais si demain il est performant, il a quand même été acheté 20 bâtons Espi, on est d'accord. Si ce mec là est performant et l'équipe est meilleure avec lui, est-ce qu'il peut couper une tête devant et pendant même toute la saison si ça fonctionne autrement? Non.
Mais en tout cas, je vois pas l'intérêt de recruter José Mourinho si derrière tu lui donnes pas ce pouvoir-là et que c'est un José Mourinho en fait en demi-teinte qui fait pas ce genre
je pense pas qu'il a ce pouvoir-là. Il y a deux choses. Il y a un, je pense quand même que le plus simple pour lui, c'était d'arriver en position de force et de couper ses têtes avant de commencer la saison, parce que là déjà le verre est dans le fruit en prolongeant Vinicius. Et deux, c'est de savoir si lui à la même niaque, à exactement le même, on va dire la même hargne pour réussir à sortir les joueurs. Et même sur ce premier match, tu vois, là, Luis Enrique, tu vois, sur le Rennes PSG, bah, sur ce premier match-là, il pouvait déjà montrer quelque chose et faire des choix. Ouais, il l'a pas fait.
Luis Enrique le ferait pas au Real parce que justement, lui, il ne veut pas avoir ces joueurs-là à gérer.
Voilà, et c'est pour ça que je te dis, soit tu le fais avant.
Si tu le prends dans l'autre sens.
Non, mais.
Ton micro, oui.
Dans le doc, il expliquait avec Shevchenko, avec Chelsea, à partir du moment où Abramovich a voulu faire son business, etc., il était plus dans ça. Quand il arrive à l'Inter, il dit, je veux 5 joueurs pour gagner la Ligue des Champions.
Exactement.
5 joueurs.
Mais là, il a pas fait ça.
L'été, je pensais qu'il était dans le sens des départs ou dans le sens.
Vinicius, on arrête. Parce que moi, j'ai besoin d'avoir Mbappé et un autre joueur dans l'effectif. Je pourrais pas les gérer tous les deux, ils ont pas de connexion ensemble. Moi, je pense que c'est en ce sens que.
Mais il serait jamais venu dans ce cas-là.
Non, mais.
Il est venu parce qu'il a accepté justement d'associer ces joueurs-là parce que Florentino Pérez, il voulait absolument que ce projet-là
soit. Lui, il croit qu'il est encore capable de faire des choses qu'il est plus capable de faire.
Edgar, moi, je pense qu'à l'inverse.
Il a le droit de se surestimer, il a fait ça toute sa vie et voilà.
Moi, je pense que Mourinho est globalement cramé. Et que ce qu'il n'a pas fait cet été, c'est parce qu'il est cramé. Si tu arrives en position de force
ou
comme avant, tu fais ce qu'il a fait à l'Inter. C'est-à-dire, tu arrives en disant, je fais ça, sinon je viens pas. Il a tellement envie de faire ce dernier tour de piste qu'il a dit, c'est pas grave, on prolonge Vinicius, c'est pas grave.
C'est même totalement inespéré, parce qu'au vu de sa fin de carrière, son retour au Real, il tombe de la vie, quoi.
Sauf que
Florentino Pérez l'aurait pas pris s'il n'allait pas associer Bellingham, Vinicius.
Le problème est déjà
Mbappé, c'est le grand rêve et c'est le bon projet de Florentino Pérez.
T'as tout résumé. C'est-à-dire que Mourinho doit venir parce que Florentino Pérez décide de l'effectif.
Attendez,
ça n'existait pas il y a 10 ans.
Excusez-moi, mais on n'a pas le droit de.
Chez Mourinho.
À aucun moment, on n'a le droit de miser sur l'intelligence des joueurs.
Ah si, c'est possible.
Non, mais je dis ça.
Mais t'as pas un joueur qui va sortir de lui-même. Hein.
j'ai quand même l'impression que vous oubliez qu'il y a eu un match dans la saison.
Parce que Mourinho a évidemment vendu le truc de l'effort collectif, machin. Bon, c'est évident, de toute façon, tu peux pas faire autrement. Mais je sais pas, je me dis, après une saison gâchée comme ça et tout, les mecs, ils. Une prise de conscience chez les gars.
On a vu ça l'année d'avant. Moi, je suis pas définitif. Je dis juste que ce qu'on voulait apprendre de cette intersaison qui m'excitait terriblement avec Edgar, on en a parlé semaine après semaine. Au final, ce premier rendez-vous-là, pour l'instant, je dis juste que je suis déçu par rapport à ça. Je pensais qu'il y allait avoir de la vaisselle cassée. Il n'y a pas eu de vaisselle cassée. La réalité, elle est là. Pour moi, on a mis des pansements.
Regardez toute l'argenterie là.
Mais voilà, moi je pense, moi après peut-être que ça va fonctionner, qu'ils gagneront une Liga et aussi ce qui est important dans le choix de José Mourinho, c'est que tu as l'impression que José Mourinho est beaucoup plus content d'aller au Real Madrid par rapport à sa trajectoire de carrière que l'inverse en fait. C'est un compromis en fait, c'est une histoire de compromis ou
c'est en ça que Mourinho n'est plus le Mourinho d'avant.
Exactement.
Parce que c'est le Mourinho qui fait des compromis, c'est un Mourinho qui n'a plus, je te dis, la même niaque et qui effectivement préfère ce contrat au Real avec ses problèmes là d'effectifs que de décider avant de couper
dans son doc. Encore une fois, il dit qu'il devait aller à Manchester United quand il doit revenir à Chelsea. Il faisait ses choix quand il avait le Real Madrid après l'Inter. Il aurait pu rester à l'Inter, il était en position de force, il avait une aura par rapport à ce qu'il faisait avec ses équipes, donc il avait une vraie réflexion, un vrai audit avant d'arriver sur l'effectif. Il était le grand entraîneur avec Guardiola. Là, si comme le dit Edgar, c'est encore Florentino Pérez qui a les pleins pouvoirs, qui est complètement cuit et qui nous l'a montré sur cette conférence de presse cataclysmique en fin de saison, on peut pas être positif et encourageant.
Il est comment avec les médias, Mourinho là?
Alors, on s'ennuie beaucoup moins qu'avec Arbeloa et qu'avec Xabi Alonso à la fin. Parce qu'au moins, il dit des choses intéressantes. Bon, et des fois, c'est un peu long, hein. Il fait des réponses très très longues. Tu sens aussi que. Il est plus aussi jeune, on va dire, qu'en début de carrière et que des fois, c'est.
Dit-il après
le ton est un petit peu différent.
Exceptionnel. Là, on est sur une usine à tunnel avec les trois qui sont à la fin.
C'est le tunnel du Mont-Blanc.
Faut pas inviter Mourinho là.
Laisse tomber là.
Faut pas inviter Mourinho. Non, mais en fait, il est très calme et d'un coup, il te sort une punchline où il te dit tout à l'heure, il a dit à un journaliste en sortant, mais toi, t'es bien informé. Faut que tu parles bien parce que sinon, et il a fait le geste comme s'il allait le taper. Bon, pour rigoler évidemment, hein, mais c'est encore un personnage quoi. Il te sort des choses.
T'as deux doigts de t'endormir et d'un coup, le même regard.
C'est pas Papy Mourinho un peu?
c'est un petit peu Papy Mourinho, mais c'est Papy qui
s'est lancé dans le doc. Je suis sûr qu'il savait même pas qu'il allait se retrouver au Real à la fin. Ça a été rajouté à la fin, le truc, c'est.
Non, ils lui ont même dit pour Netflix, ils lui ont dit ce serait bien que tu signes au Real pour la fin et pour la deux saisons.
Bon, Mbappé, là, comment ça va? Donne-nous des nouvelles du MJDM.
Bon, écoute, il a fait un premier match. Il avait 45 minutes dans les jambes d'amical face à Everton. Donc, on va pas en tirer des conclusions sur ce premier match-là. Ça se voyait très clairement que c'était une reprise pour lui, que ce soit physiquement, que ce soit dans son implication dans le jeu. J'ai pas l'impression qu'on lui ait demandé aussi de faire des miracles défensivement. C'était le Mbappé, on va dire, de la saison dernière. Mais maintenant, en fait, il a été tellement bon pendant la Coupe du Monde qu'il s'est mis la barre très très haute et pendant cette saison-là, en fait, maintenant à Madrid, ils vont qu'accepter cette version-là. Ils vont se dire, mais nous, on veut voir le gars qui est
compréhensible,
fait.
Mais la difficulté, c'est que sur
8 matchs, c'est pas pareil que sur 60 matchs.
Ça va être la même chose pour Bellingham, qui a emmené son équipe.
Et pour Vinicius.
Bellingham a été excellent à la Coupe du Monde. Il a emmené son équipe. Il a été impliqué dans tout le collectif de sa sélection. J'imagine qu'au Real, on va vouloir avoir la même version. Après, pour ce qui est de Vinicius, c'est encore différent parce que il a pas réellement brillé à la Coupe du Monde. Il était dans une sélection en retrait. Et je pense qu'il est plus sur la fin que le début, maintenant. Mais bon, il est resté. Moi, je pensais qu'il allait partir, hein, maintenant. Mourinho de jongler avec ces mecs-là.
Bon, on parle un peu du Barça, si vous le voulez bien, quand même, parce que.
T'auras une minute pour la conclusion du sujet d'Embélé du jour.
Ah, j'ai encore rebondi, là?
Non, j'ai la conclusion définitive.
Bon, on te garde. Alors, suspense. On fait ça dans une minute. Oui. Le Barça, fais-nous un peu à l'état des lieux, des stars barcelonaises. Bon, faut quand même rappeler, parce qu'on parle beaucoup du Real, mais c'est quand même le Barça qui est le tenant du titre. Bon, Flick est toujours là. Qu'est-ce que tu peux nous dire là de...
C'est la difficulté d'ailleurs pour le Real. Hein, c'est qu'il peut faire une très bonne saison et tomber en fait sur un Barça qui est juste énorme et qui continue d'être énorme et pas gagner le titre. Parce que là, on est là en mode ouais, c'est une saison réussie pour le Real que s'il gagne un titre. Ouais, mais ok, ça veut dire que tu dois être devant le Barça en championnat et que tu dois battre le Bayern, le PSG, Arsenal,
surtout etc. Surtout qu'ils t'ont récupéré Rodri, le joueur qui te manquait.
C'est ça. Je pense que si Rodri, par exemple, était allé au Real, ça aurait été vraiment la cerise sur le gâteau. Où là, tu te disais, ok, le mercato est énorme. Et non, là,
le plus grand raté du Real, c'est ça.
Oui.
On aurait moins vu de trous dans l'effectif du Real. Non, pour le Barça, écoute, la seule question, c'est que du coup, Julian Alvarez, ça paraît extrêmement bloqué. Lewandowski est parti. Rafinha a commencé le premier match dans l'axe. On sait que Gordon aussi peut jouer un petit peu dans l'axe, mais je pense que Rafinha va souvent occuper ce rôle, mais qu'il va y avoir aussi pas mal de liberté dans cette attaque. Ils ont gagné leur premier match 5-0 en étant pourtant pas si flamboyant, donc c'est très très bon signe quand même. Et moi, j'ai très hâte de voir, et on l'a évoqué hier, de voir la saison aussi que va faire Fermín López. Pourquoi lui? Parce que il a raté la Coupe du Monde alors qu'il aurait dû avoir un rôle très important avec l'Espagne, que là il revient pour ce premier match là et tu le vois, mais ultra combatif, l'envie de prouver qu'il fait partie de ses meilleurs joueurs et que c'est un très bon joueur et que les gens l'oublient pas. Donc il y a beaucoup de choses intéressantes avec cette équipe là pareil, ils ont pas des moyens financiers absolument extraordinaire, même si ça va beaucoup mieux. Je trouve qu'ils ont quand même réussi à faire de belles recrues cet été, vu les conditions.
Gordon et Adeyemi, je pense qu'athlétiquement, ça va leur faire beaucoup de bien.
Adeyemi a marqué, Gordon a fait deux passes décisives, dont la première qui est très très belle, même s'il y avait beaucoup d'espace dans la défense d'Elche. Et surtout maintenant, l'interrogation et le mystère et l'intérêt, ça va être de voir comment ils intègrent Rodri à cette équipe-là. Mais tu rajoutes Rodri dans ce milieu-là,
Rodri, c'est Pedri, De Jong, pour la...
pour la concurrence, c'est très
Barça, merci Edgar.
C'est gros client.
Merci Edgar, tu viendras les soirs les mardis sans match, comme ça faire des petits points réguliers.
Avec plaisir.
Daniel, il te reste 30 secondes.
Il y a eu explication assez mouvementée entre les parties joueurs-coach. Tout est rentré dans l'ordre et il semblerait que ce soit une nouvelle gestion et que cette année on ait joueurs qui soient mis au repos quelques jours comme ça. Que ce soit une nouveauté de management de Luis Enrique qui innove avec ce qu'il est en train de faire avec Dembélé.
Donc c'est pas une sanction.
Sans nier pour autant qu'il y a eu une vraie explication et qu'en tout cas ce que tu as dit est vrai, Walid, tout à l'heure, à savoir qu'il n'était pas du tout content de ce qui s'est passé parce qu'il avait fait une préparation pour revenir qu'il estime avoir pas été super bien traité tout de suite et que sortir à la mi-temps la façon dont il est sorti, ça lui a pas plu. Donc ça s'est expliqué, mais ce soir tout est rentré dans l'ordre. Et il accepte parfaitement la décision, il va se reposer pour revenir en pleine forme et encore une fois, il est probable que on voit ce genre de break pour certains joueurs
si besoin.
Que ça se reproduise durant la saison. Donc voilà, on écarte le scénario initial de l'éventuel départ.
Il n'empêche que même si ce scénario-là n'existe pas, Le fait d'être piqué et poussé une nouvelle fois va redonner aussi du, enfin donne du pouvoir au coach, parce que ça veut dire que Dembélé, quel que soit la prépa qu'il ait pu faire individuellement, il doit passer sous les fourches caudines du coach et du collectif.
C'est un peu violent quand même, s'il peut, il
mais peut rater des autres. Mais Dembélé est un joueur très intelligent. Ouais.
C'est fini pour ce soir. Demain, on sera là dès la fin du match entre Lyon et Fenerbahçe. Salut les gars, et je vous dis donc à demain. Bonne nuit à tous.
RMC, l'After Foot.